RCF.
h 10, RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardenne. Si vous nous rejoignez en DAB+, c'est le magazine régional. Déjà le dernier numéro de cette semaine, un vendredi soir assez spécial où l'on reviendra bien sûr sur Catherine Vautrin qui a été nommée hier soir ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Sa réaction à entendre dans ce journal à 18h30. Au programme ce vendredi soir, on retrouve nos fidèles du vendredi, notamment notre chroniqueur Jacques Cohen qui évoquera la loi immigration. Et puis vous le savez, le vendredi, on retrouve aussi en alternance où Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, ou Mgr Étienne Véteux, son auxiliaire. C'est Mgr Étienne Véteux qui sera avec nous ce soir en deuxième partie d'émission. Il prendra la suite d'ailleurs de Benoît Apparu, le maire de Chalon, qui présentera ses vœux et les grands projets pour l'année 2024 à Chalon en Champagne. Une mère qui nous parle ce soir, Lucie Paulet, elle est maire de Balieu-les-Fimes. On ira à sa rencontre d'ici quelques minutes. Un sommaire très court pour un programme très riche. Avant de démarrer cette émission, vous me permettrez de faire un bisou tout particulier à ma maman qui fête aujourd'hui ses 74 ans, un très joyeux anniversaire. C'est sa première de 2024, le professeur Jacques Cohen est en ligne avec nous pour la chronique d'actualité. Bonjour professeur.
Bonjour, bonne année, meilleurs vœux.
Eh bien, on les reçoit, on les partage avec les auditeurs de RCF et on vous les retourne aussi une très bonne année, une très bonne santé, c'est important. En plus, quand on s'adresse à un professeur de médecine et puis évidemment nos meilleurs voeux pour cette année 2024. Jacques Cohen, aujourd'hui, vous voulez nous parler de la loi immigration. Si l'on fait une photo de cette loi, Jacques Cohen, pour rappeler un petit peu les faits aussi, pour que nos auditeurs sachent de quoi on parle, c'est quoi le sujet?
Eh bien, la loi immigration est un catalogue ou un bric-à-brac de slogans vides et de mesures défavorables et inefficaces. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle reprend tout un tas d'oripeaux de l'extrême droite, rachetés par les Républicains pour les revendre à Macron. Je ne sais pas s'ils vont faire beaucoup de bénéfices dans la transaction, mais globalement, c'est quelque chose d'assez désastreux. Et à moyen terme, ça montrera que Marine Le Pen, comme Mélenchon, n'a rien de sérieux sur l'immigration, car le problème est posé de travers à peu près par tout le monde en France, parmi les politiques, pour ne pas s'attaquer aux choses sérieuses.
Quelle est votre lecture, alors, Jacques Cohen, pour dire que cette loi, tout va de travers, finalement?
Non, on ne va pas la détailler, parce que ça serait trop long, mais prenons deux exemples caricaturaux de son absurdité. On insiste sur les obligations de quitter le territoire français. Sauf qu'on n'arrive même pas à en exécuter 10%, et rien n'est prévu pour que les pays d'origine soient contraints de les accepter. Parce que c'est un problème de géopolitique globale, comme on va le voir tout à l'heure. Donc on fait des gesticulations totalement inutiles. C'est intéressant parce que, terme, si Marine Le Pen vient tout à faire, elle se fera comme Mélenchon, ça le démontre tout à fait. C'est-à-dire que la rhétorique de l'extrême droite n'a aucune efficacité en ce domaine. Alors je me situe justement sur le plan de l'efficacité et pas de la morale. La morale, il y aurait beaucoup à dire, mais je me situe sur le plan de l'efficacité. Et de ce point de vue-là, cette loi est encore une fois un coup d'épée dans l'eau. Et je voudrais quand même rappeler, ou apprendre à certains, que je suis fils d'immigré. Par mon père, il a gardé précieusement, et j'en ai hérité, son billet de bateau de 3e classe quand il est venu en France. La question de l'immigration est une chose à dire trop sérieuse pour être laissée au braillard sur des points de vue idéologiques et racistes. Alors que le problème est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus vaste. Parce que j'ai justement choisi comme angle que ferait Henry Kissinger, c'est-à-dire le pape, si je puis dire, sur cette antenne de la réalpolitik, du réalisme, de l'analyse et des mesures en fonction, et non pas de l'indignation morale.
Un petit mot sur ce personnage que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément.
Eh bien, Henry Kissinger a été secrétaire d'État aux États-Unis, puis il a surtout été conseiller diplomatique jusqu'à l'âge de 100 ans, il vient de décéder, et il était réputé justement pour des analyses tout à fait pertinentes et la proposition de mesures qui en découlaient, qui rappelaient que les États ont des intérêts et pas d'autre chose, et que les rapports de force déterminent ce qu'on peut faire, et qu'il ne sert à rien de se lamenter ou de faire des incantations hors des rapports de force. Et d'ailleurs, Henry Kissinger était né, Heinz Kissinger, en Allemagne, et il avait dû fuir comme gamin les persécutions nazies, ce qui lui avait laissé quand même un certain scepticisme sur la nature humaine. L'immigration, on peut la comparer à un fleuve. Il y a les sources, il y a des barrages de retenue, et il y a l'irrigation. Tout le débat français se situe sur l'irrigation, sans tenir compte une seconde de ce qui se passe avant. Il n'y a pas d'irrigation quand il y a des sécheresses ou des inondations, etc. Donc c'est de ce point de vue-là, regardé par le petit bout de la lorgnette, un problème qui est global et qui a plusieurs composantes. Dans les mesures d'irrigation stupides, je vous en ai cité une tout à l'heure, les OQTF, mais il y en a bien d'autres. Les immigrés n'ont pas le droit de travailler en France, donc ils sont forcément assistés. Alors c'est sûr qu'après, on reproche qu'on les assiste. En Grande-Bretagne, les gens peuvent travailler du jour au lendemain. Savoir comment ils arrivent, etc., c'est autre chose. Mais c'est complètement stupide de mettre délibérément dans l'illégalité, c'est-à-dire dans le travail au noir, au grand bénéfice des exploiteurs, les immigrés qui voudraient être travailleurs, justement. Puis on peut, sans perdre trop de temps dans chacune des mesures, on a comme ça tout un catalogue de mesures stupides. Si on revient à cette analogie du fleuve, les barrages, c'est l'arrivée en Europe. Et là-dessus, il y a de la part de Frontex et de la politique européenne des zigzags extraordinaires. Tantôt ouverts ou laxistes selon le point de vue quand l'Allemagne veut des travailleurs, puis complètement restreints dans d'autres périodes, et en plus dans certains pays et pas dans d'autres. Donc quelque chose qui, du point de vue européen, est un désastre, parce que la politique de Frontex en zigzag, puis une politique éparpillée par État au lieu d'une politique cohérente, c'est là aussi quelque chose de désastreux. Alors, les sources. Il y a des sources principales de l'immigration. Deux d'entre elles, on en parlera guère aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient, parce que ça, ces gens n'arrivent pas en France ou très peu, et c'est l'axe de l'Europe, les Balkans, de l'Albanie au Caucase, qui pour l'instant est numériquement pas trop important en France, c'est donc pas l'essentiel de notre sujet. L'essentiel de notre sujet est notre immigration, elle est d'Afrique du Nord d'une part, elle est subsaharienne d'autre part, par les liens historiques dont la langue qui nous relie à ces pays qui ont été des colonies. Et nous avons eu, par exemple, sur l'Afrique en dessous du Sahara, une politique assez incohérente qui est que nous avons fait de l'interventionnisme militaire quand ils ont été au Mali confrontés à l'État islamique, et nous n'avons pas fait d'interventionnisme politique. Alors ça, c'est d'une grande naïveté, car de laisser des politiciens profiteurs caricaturaux honnis par la population, tout en assurant, j'allais dire, leur sécurité, c'était la pire situation, et c'est ce qui est arrivé. Nous avons eu un effondrement politique qui nous a conduit à devoir retirer nos interventions militaires. Là-dessus, c'est d'une grande naïveté. Je sais que c'est pas très très dans l'air du temps. Je pense que l'interventionnisme, et même la question des mandats de l'ONU, puisque ça a été le cas, non pas pour l'ONU, mais la SDN, pour le Liban et la Syrie, après la Première Guerre mondiale, devrait être posée. On ne peut pas laisser ces pays s'enfoncer comme ils le font, et sombrer dans une misère et une idéologie moyenâgeuse islamique, ce qui est en train de se passer. La seule garantie, justement, aux sources, c'est le développement. Et pour le développement, il faut se débarrasser d'une infrastructure politique qui est une spirale descendante, et donc l'imposer, y compris avec les moyens militaires qui permettent de battre éventuellement l'État islamique dans ces régions. C'est ça qu'aurait dit Henry Kissinger. Faire de l'interventionnisme militaire pour pointiller sans interventionnisme politique, c'est d'une naïveté désastreuse. Pour l'Afrique du Nord, c'est un peu plus compliqué, parce que le jeu géopolitique fait que différentes puissances ont intérêt à ce que nous restions, à terme variable selon les pays du Maghreb, et avec une population de ces pays présente en France significativement importante, sans pourtant qu'il y ait d'accord politique correspondant et de flux bidirectionnels. Donc là, il ne suffit pas de dire qu'il faut leur exiger qu'ils reprennent leur mauvais sujet quand on veut en virer, mais pour le faire, il faut avoir un rapport de force géopolitique et des accords beaucoup plus importants. On n'aura pas le temps de traiter ça aujourd'hui, mais globalement, c'est ce que je voulais indiquer. L'immigration est un problème des sources. Les sources ne peuvent que réagir au développement, et le développement ne peut être assuré que par des changements de situation politique, et pas seulement en faisant ruisseler de l'argent. On a vu à Gaza que le ruissellement d'argent de Doha ou d'autres n'a pas été suffisant pour éradiquer l'islamisme radical, c'est-à-dire un courant moyenâgeux, obscurantiste, qui se répand dans toutes ces régions. Sinon, j'aurais terminé sur une vue un petit peu pessimiste. Sinon, eh bien, nous allons continuer à dévaler la pente. C'est-à-dire que ces pays vont surtout se dégrader en pays et de plus en plus pauvre, contrôlé par des dictatures qui seront de plus en plus islamistes, et avec, chez nous, une population en référence et en écho que nous aurons de plus en plus de mal à tolérer, jusqu'à ce que nous choisissions soit la solution communautariste américaine, chacun vit dans son ghetto, on ne sort pas, et les mesures de robinet de détruire le pont Charles de Gaulle sont dans ce sens-là, mais à petite échelle, c'est-à-dire on coupe le centre-ville, on l'isole, et ce qui est stupide, ou dans l'autre sens, c'est d'assumer l'entièreté du problème, ce que nous ne pouvons bien sûr pas assumer seulement comme Français, mais qui devrait au moins être assuré à l'échelle européenne, voire plus pour ce qui est de l'Afrique, parce que les deux puissances qui financent ou qui appuient la dérive actuellement sont ceux qui nous veulent du mal, c'est-à-dire essentiellement le Qatar et les Émirats qui financent le développement de l'islamisme en Afrique subsahélique, ou la guerre civile au Soudan, et la Russie qui tient les marrons du feu, puisque pour elle, pour l'instant, tout ce qui affaiblit les États occidentaux est bon à prendre compte tenu du conflit sur l'Ukraine. Pour terminer sur Harry Kissinger, je pense que la première chose qu'il aurait dite, c'est de s'entendre avec les parrains de ces gens-là, les parrains ou les ennemis, parce que pour les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite a toujours pensé qu'elle devait récupérer les micro-États du Golfe et que l'aider à au moins les menacer permettrait de tarir le financement de l'islamisme subsahélique, d'une part, et de l'autre côté, avec les Russes, il y a aussi des contentieux, et qu'une négociation pourrait comporter des choses qui arrangeraient les uns et les autres, parce que dans une négociation, il faut que tout le monde soit content, ou du moins soit pas totalement insatisfait. Et donc ce n'est peut-être pas très moral, mais c'est la voie qui serait la plus raisonnable, plutôt que de laisser les choses dériver.
Merci, professeur. Parmi les bonnes résolutions, c'est tenir votre blog à jour cette année. On aura plus d'informations prochainement sur le site jhmcohen.com. À très bientôt, Jacques Cohen.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Comme tous les soirs avant le journal régional, un maire nous parle et c'est Lucie Paulet de Balieu-les-Fimes qui s'entretient avec Jean-Pierre aujourd'hui sur RCF.
Bonjour Madame la maire, bonjour Lucie Paulet.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous de mieux connaître votre commune et de mieux vous connaître aussi puisque vous êtes la maire de Balieu-les-Fimes. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon un peu générale votre commune, sa situation géographique, le nombre d'habitants de Balieu-les-Fimes?
Oui, donc la commune de Balieu-les-Fimes est située à l'ouest du Grand Reims, en limite du département de l'Aisne. La commune est voisine des communes de Glennes, Romains, Courlandon et Fimes. Les habitants de Balieu-les-Fimes se nomment les Bailleutins et les Bailleutines et est composée d'environ 350 habitants.
Ces habitants, on les reverra tout à l'heure, mais quel type ce sont des gens en retraite? Il y a des jeunes qui s'installent. Avec le Covid, on sait qu'il y a des gens qui aiment bien aller dans des belles communes pas trop trop loin de Reims, à la campagne. Quels sont ces habitants de Balieu-les-Fimes aujourd'hui, Madame Paulet?
Alors effectivement, la population se renouvelle avec la création d'un lotissement en 2012, donc beaucoup de jeunes couples avec enfants. Mais on a également nos anciens qu'on n'oublie pas. Et...
Il y a des retraités, il y a des personnes plus âgées qui sont aussi à Balieu-les-Fimes, hein, comme dans toutes les communes. Et vous êtes maire depuis combien de temps? C'est assez récent finalement.
Depuis 2020, oui.
Depuis 2020. Et vous avez toujours été intéressé par la vie associative? Vous étiez peut-être avant conseillère municipale. Comment c'est arrivé? C'était peut-être, comme on dit aujourd'hui, un peu dans votre ADN?
Effectivement, j'ai été élue pour la première fois en 2014 en tant que conseillère municipale et en 2016 en tant qu'adjointe au maire jusqu'en 2020. Et ensuite, je me suis présentée en tant que maire en 2020.
Alors, c'est vrai que bon, votre commune, on vient de la caractériser très très rapidement, les habitants. On dit aussi que le maire, il est souvent, très très souvent sollicité, mais que c'est, tous les élus disent, c'est l'une des missions les plus proches, celle de maire, par rapport à ceux qui sont députés ou conseillers départemental ou régional. Le maire, on le connaît, le maire. On vous connaît dans Balieu-les-Fimes. Hein.
Alors effectivement, les anciens me connaissent puisque j'ai grandi à Bayeux. Après, les nouveaux, ils ne viennent pas forcément se présenter en mairie. Donc voilà, ils peuvent me croiser sans pour autant savoir qui je suis. Mais enfin, en général, je vais me présenter à eux pour faire connaissance. Et, Et on fait le Noël des enfants dans l'église. Donc pour les nouveaux qui ont des enfants, au moins ça permet de présenter tout le conseil municipal.
C'est aussi un moyen de faire connaissance. Les enfants, c'est un bon moyen aussi hein, de faire
connaissance. Voilà, oui.
Donc, je vous ai interrompu, il y a Noël, il y a des activités qui permettent de temps en temps, quand même dans l'année, de rassembler les habitants de Balieu-les-Fismes.
Alors effectivement, on n'a plus de comité des fêtes actuellement et le volontariat disparaît malheureusement. Les gens n'ont plus le temps puisqu'ils travaillent, ils ont leur vie de famille.
Bien sûr.
Mais nous, on organise quand même les cérémonies donc du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. On fait Halloween et donc le Noël des enfants et des anciens. Voilà.
Alors, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères que nous avons tous les jours qui nous disent... Alors, parfois, il y a des esprits chagrins hein, qui sont toujours... Bon, c'est vrai, c'est partout pareil. Et puis, il y en a d'autres qui sont contents. Alors, il faut quand même que vous fassiez preuve de diplomatie.
Oui, alors, les problèmes de voisinage, voilà, comme on dit, c'est pas vraiment à la mairie de régler ces litiges. Mais après, on est là, entre guillemets, pour arrondir les angles et faire en sorte que ça se passe pour le mieux et aussi bien l'un comme l'autre puissent trouver un accord et vivre ensemble, on va dire.
Alors, est-ce que vous avez, à Balieu-les-Fismes, quelques projets en cours, à court terme, à moyen terme ou même peut-être à plus long terme?
Alors le projet le plus important sur la commune, c'est les travaux de voirie et notamment la rue principale. Donc on va commencer par la rue qui borde la mairie en fait, hein, qui est quand même assez grande, la rue de Lorraine, mais qui est scindée en fait en deux parties, une partie route départementale et une partie communale. Donc en 2024, 23-24, ça va être le Grand Reims qui va œuvrer sur la partie communale. Et donc ensuite, nous, pour 2025-26, on va faire la partie départementale, avec les aides financières du département, du Grand Reims, de la région et de l'État.
Alors c'est vrai qu'on dit toujours le maire, on le connaît et tout ça, mais il est quand même encore le patron ou la patronne dans sa commune, le maire ou la maire.
Ah bon, on essaie de l'être, hein, on essaie de faire respecter la réglementation en vigueur, c'est pas toujours simple. Les gens en plus ont atteint un niveau d'exigence assez élevé là, hein, dernièrement je le constate avec certaines personnes qui arrivent à la campagne et qui pensent que ils veulent le même confort qu'en ville, mais la campagne et la ville, c'est pas du tout la même chose. On a des avantages à la campagne qu'on n'a pas en ville et inversement, hein, les inconvénients, on en a aussi à la campagne.
Avec les communautés de communes, avec le Grand Reims et tout ça, vous êtes quand même encore respecté, le maire, encore le patron chez elle, enfin dans la commune.
Alors j'essaie de me montrer auprès du Grand Reims, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que le Grand Reims c'est quand même une communauté de communes qui regroupe 143 communes avec des populations différentes. Et bon, on essaie de par le transfert de compétences, de faire en sorte que on ait des travaux qui soient effectués par le Grand Reims. Et on y arrive, il faut un peu de temps parce qu'on n'est pas tout seul, il faut en laisser aussi aux autres. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien avec le Grand Reims.
Alors il faut dire que évidemment c'est pas toujours facile lorsque vous êtes une mère de famille de conjuguer la vie familiale, la vie professionnelle et le fait d'être mère. C'est pas toujours facile, il faut vous organiser quoi.
Voilà, beaucoup d'organisation, savoir s'adapter aussi. Des fois on fait des choix suivant les priorités.
Vous êtes à combien de kilomètres de Reims finalement à Balieu-les-Fismes?
25 km à peu près.
Oui, il y a quand même une petite distance. Si vous allez à Reims, vous ne pouvez pas faire l'aller-retour comme ça plusieurs fois. Hein. Mais vous avez vu arriver d'une nouvelle population, par exemple avec le Covid, il y a des gens qui font construire, non? Il y a pas. Est-ce que ça arrive, ça?
Alors nous, en fait, sur Balieu-les-Fismes, il nous reste très peu de terrain à bâtir. Hein, donc ça va être plus de la vente déjà de bâti. Et effectivement, des gens de la ville qui arrivent à la campagne et pour lesquels il faut on leur apprenne en fait la façon de vivre à la campagne quoi.
Et Fismes n'est pas très loin quand même, donc il y a quand même une ville avec pas mal de choses à côté, hein, pas très loin.
Oui, on est à moins de 5 km de Fismes. On a vraiment on a vraiment tout sur Fismes. Enfin, on n'a pas forcément d'obligation d'aller sur Reims. Franchement, Sim, avec tous les commerces qu'on a, ça peut
vous
largement
suffire. Vous êtes bien lotis, comme on dit. Écoutez,
oui.
Lucie Paulet, on aura l'occasion de vous retrouver sur RCF. Bien entendu, vous êtes maire de Bellevue-les-Fimes. Et on a envie de vous poser la question, on la pose à chaque maire tous les jours, à midi et aux 18h20. Est-ce que vous êtes une mère heureuse?
Oui, moi je suis...
Une mère M-A-I-R-E, hein, bien sûr.
Oui, moi je suis heureuse de rendre service à la population. Voilà, parce que j'ai grandi dans cette commune-là, j'aime ma commune, et voilà, aider les gens, moi, c'est dans mon ADN.
Vous êtes une baillotine.
Eh oui.
Ah ben voilà, et donc pour s'occuper des baillotins, quoi de mieux que Lucie Paulet, maire de Bellevue-les-Fimes. Merci Lucie Paulet d'avoir
Merci
été avec
à
nous.
Vous.
À bientôt.
Merci
au revoir.
Également, au revoir.
Au revoir.
Merci Lucie Paulet, merci Jean-Pierre. Quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional. Avec les titres de ce vendredi 12 janvier, Catherine Vautrin fait partie du nouveau gouvernement. Elle a été nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités hier pour une prise de fonction ce matin. Sa réaction dans ce journal. La Saint-Vincent, saint patron des vignerons, c'est le 22 janvier, mais dès ce week-end, les festivités commencent dans certaines communes.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
C'est officiel, depuis hier soir, la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, est ministre du gouvernement de Gabriel Attal. Nommée en troisième place dans l'ordre protocolaire, elle prend la tête du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle a appris la nouvelle depuis l'hôtel de ville de Reims, où elle participait à une cérémonie de vœux à destination des habitants. La réaction de Catherine Vautrin hier soir.
Imaginez que je suis particulièrement honorée de la décision prise par le président de la République et par le Premier ministre. Et maintenant, un seul objectif, se mettre au travail, c'est le cas de le dire. Au travail, bien évidemment, regard à la charge qui m'est confiée. Il y a de très nombreux sujets et donc, bien évidemment, le quotidien de nos concitoyens, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse de famille. Et donc, très bien évidemment, en charge sur ces sujets et engagée à travailler pour le pays, pour nos concitoyens.
Catherine Vautrin intègre donc un gouvernement resserré de 14 ministres.
Comme vous, j'ai entendu que le président de la République souhaitait un gouvernement ramassé. Beaucoup disaient que ce sont toujours des gouvernements pléthoriques. Vous avez vu que là, le choix qui est fait par le gouvernement et par le président de la République, par le Premier ministre, c'est de nous confier des portefeuilles importants, ce qui nécessite tout notre engagement, tout notre investissement. Si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est que très concrètement, ce sont des sujets du quotidien. Le Premier ministre a parlé de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est les Français qui se lèvent le matin, qui vont travailler. Ce sont les Français qui sont, par exemple, en présentiel. Et cette reconnaissance du travail, de la présence, tout le sujet de la santé. La santé, bien évidemment, on le sait, c'est tout le sujet de l'hôpital, c'est le sujet de la médecine libérale, c'est le sujet de l'accès aux soins. Et je n'oublie pas, bien évidemment, la solidarité, aussi bien le sujet des seniors. Notre société est une société dans laquelle on vieillit plus longtemps, cela nécessite des réponses. Mais nous avons également la jeunesse, avec notamment la famille, les tout-petits, les 1000 premiers jours, qui sont des enjeux majeurs.
Un document recueilli par nos confrères de l'Union qui consacre évidemment des pleines pages aujourd'hui à cette nomination de Catherine Vautrin. Elle était donc à l'hôtel de ville hier soir lorsqu'elle a appris la nouvelle. Catherine Vautrin a pris ses fonctions au ministère du Travail ce matin à 10h avec la passation avec Olivier Dussault avant de participer au Conseil des ministres. C'était à 11h. Les réactions de certaines personnalités locales de cette nomination seront à retrouver dans le magazine du week-end présenté par Jean-Pierre Benoît ce samedi. L'université de Reims-Champagne-Ardenne a inauguré cet après-midi un nouveau bâtiment de l'ESI Reims, en présence de son président évidemment, Guillaume Gelé, mais aussi de Franck Leroy, président de la région Grand Est, ou encore Henri Prévost, préfet de la Marne. Pour rappel, la politique immobilière de l'université s'inscrit dans la stratégie globale de l'établissement et est conçue comme un support aux missions de l'établissement. Ce nouveau bâtiment permet de répondre aux nouvelles pratiques d'enseignement et aux attentes de la communauté universitaire en termes de services et de cadre de vie. L'opération a été financée à hauteur de 7,2 millions d'euros, dont 3,8 millions d'euros par le Grand Est, 2,4 millions d'euros par l'État et 1 million d'euros par le Grand Reims. Événement incontournable du patrimoine et du folklore champenois, la célébration de la Saint-Vincent, saint patron des vignerons, débutera ce samedi, ce 13 janvier, donc à Épernay. Elle aura lieu dans les prochains jours dans plusieurs communes champenoises, dont à Broye, dans le Cézanais. Une tradition importante pour Vincent Léglantier, président de la Saint-Vincent du Cézanais.
La Saint-Vincent, c'est important à plusieurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cela marque le début de l'année et c'est à ce moment-là que sont communiquées les ventes de l'année passée. Donc c'est toujours un résultat qui est très attendu par la profession, par les vignerons, puisque c'est en très grande partie ce qui va déterminer l'appellation, les vendanges de la campagne qui va suivre. Et puis c'est aussi le moment et le plaisir de tous nous retrouver, d'échanger, parce que bien souvent on se retrouve ce qu'on appelle les réunions bout de vigne, hein, où on discute entre vignerons de l'actualité, mais là c'est l'occasion de participer et passer tous ensemble un moment convivial autour de nos traditions, et puis bien sûr surtout autour de notre saint patron, puisqu'il ne faut pas oublier que la célébration de la Saint-Vincent est avant tout et surtout une fête chrétienne, une fête catholique dans le Cézanais. Donc ça se passe tous les ans de la même façon. Tout d'abord, nous nous retrouvons, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, par essence c'est une fête chrétienne, une fête catholique, donc nous nous retrouvons à l'occasion d'une messe. On va être béni le vin de la précédente vendange, et puis ensuite nous nous retrouvons autour du champagne de l'amitié, du verre de l'amitié, où sont également remises les diplômes, les récompenses aux acteurs qui ont œuvré à la valorisation, à la promotion, à la défense de notre profession. C'est un vrai moment, c'est un vrai temps fort de l'année pour le vigneron.
Vincent Léglantier avec Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. La Saint-Vincent pour les communes de Cézanne, Broye, Allemand, Saudois et Vindet auront lieu le 20 janvier à Broye, donc dès 16h30 à l'église Saint-Martin, suivi d'un vin d'honneur et d'un repas. L'agenda des sports du week-end nous emmène à l'Arena de Reims ce soir à 20h30 avec du basket. Pour le compte de la 15e journée de Pro B, Chalon-Reims reçoit Poitiers. Match de la peur en Ligue féminine de basket samedi à 20h pour les Flammes Carolo. Elles disputeront le classique sur le parquet de Saint-Amand-Hainaut à l'occasion de la 13e journée. Les Ardennaises 9e affrontent des Nordistes 11e. Il y aura aussi du volley samedi dès 19h en Liga. Le leader Chaumont se déplace à Saint-Jean-d'Illac pour la 16e journée. Journée chargée samedi, puisqu'encore un peu plus tôt dans l'après-midi, à 17h, la Ligue 1 reprend ses droits avec la première journée de la phase retour. Le Stade de Reims se déplace à Monaco. En Ligue 2, c'est aussi les matchs retour qui commencent ce week-end. 3 reçoit Ajaccio, c'est toujours samedi, c'est à 19h. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Avec encore une vingtaine de minutes à passer ensemble ce vendredi soir, à l'occasion des vœux pour cette nouvelle année, RCF vous propose de faire un tour d'horizon sur les projets de la ville de Châlons-en-Champagne. Avec nous ce soir donc le maire de Châlons-en-Champagne, Benoît Apparu. Il est notre invité long format au micro de Christopher Fausten.
Benoît Apparu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Très bonne année à vous.
À vous de même et à tous les auditeurs.
Et ainsi qu'à l'ensemble du conseil municipal de Châlons-Champagne.
L'année, merci pour
une année marquée par de grands projets pour la ville, préfecture de la Marne, notamment la zone Chanzy, la caserne inutilisée après le départ de l'armée. Un site qui est renaît avec l'arrivée, il n'y a pas si longtemps, enfin, façon de parler, de l'INRAP. Des projets sont en discussion avec notamment le tiers-lieu du Champagne Basket, le musée du cirque. À l'heure où on se parle, Benoît Apparu, que peut-on dire de ces éventuels projets à Chanzy ?
Pour l'instant, sur l'ensemble du quartier, qui est un quartier dit Chanzy-Forgeau, puisqu'il y avait deux casernements historiques, la partie Forgeau, c'est devenu deux zones pour faire ce qu'on appelle des terrains à bâtir. C'est-à-dire qu'on vend un terrain à quelqu'un qui veut construire sa propre maison. Bon. Donc il y a une première phase qui est terminé. Il y a une deuxième phase qui est en cours de commercialisation pour faire ces maisons et que les gens construisent leurs maisons. Bon, ça, c'est sur la partie Forgeau. Sur la partie plus historique, plus patrimoniale, avec la grande place d'armes du quartier Chanzy, nous avons plusieurs installations. L'INRAP, vous l'avez cité, avec 70 collaborateurs, y sont installés. Rez-de-chaussée du bâtiment, quand on regarde la place d'armes, le bâtiment de droite, le rez-de-chaussée, c'est l'INRAP avec le bâtiment derrière qui sert d'atelier. Bon. Ensuite, sur les étages de ce bâtiment-là, les travaux sont terminés pour accueillir les agents de la DDFIP, Direction départementale des finances publiques. En fait, ce sont plutôt une direction nationale, puisque nous avons gagné une compétition qui avait été lancée par le ministère de délocalisation de services parisiens vers Châlons. Et donc là, on a une centaine de collaborateurs au total, dont 50 qui vont s'installer sur Chanzy. Nous avons gagné une deuxième compétition de ce genre-là auprès du ministère de l'Intérieur, avec l'Agence nationale des données du voyage. Donc ce sont des gens du ministère de l'Intérieur qui, en gros, contrôlent qui circule dans quel avion et comment sont payés les billets d'avion. C'est à peu près ça, le schéma. Ça, c'est 120 personnes. Donc INRAP, 70. Finances publiques, 100, dont 50 à Chanzy. Et 120 à Chanzy de l'Agence nationale des données du voyage. Ce qui veut dire qu'en création d'emplois pour Châlons, l'INRAP, ils étaient déjà là, je ne les compte pas. Mais c'est 100 en finances publiques, 120 pour l'Agence nationale des données du voyage. Donc, c'est 220 emplois créés, dont 170 qui s'installent sur Chanzy. Bon. Et puis, sur Chanzy, sur un petit bâtiment, il y a également le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui s'installe. C'est quoi ce centre? Pour les grandes communes comme Châlons, on a notre propre DRH qui assure les recrutements, la paye, etc., etc. Pour les toutes petites communes, qui ont 3 salariés, 2 salariés, 1 demi-salarié, ils n'ont évidemment pas de direction des ressources humaines. Et donc, il y a un service qui s'appelle le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui en fait fait la DRH pour les petites communes. En gros, c'est ça. Bon. Ben, ce centre-là, qui est déjà installé à Châlons, donc ce n'est pas une création d'emploi, va s'installer, se réinstaller sur Chanzy, pour donc des petits bâtiments à côté, mais dans le quartier Chanzy, pour une quarantaine d'emplois. Bon. Ensuite, dans les projets restants, il y a 3 grands projets. Premier projet, le bâtiment central de Chanzy. Donc la grande bâtisse principale. Ce bâtiment-là, les travaux vont commencer probablement au mois d'avril, par ce qu'on appelle le curage des amiantages. Et dans ce bâtiment-là, on va installer la fusion des services de la ville et de l'agglomération. Aujourd'hui, la ville de Châlons a ses propres fonctionnaires. La communauté d'agglomération de Châlons a ses propres fonctionnaires. Ils sont dans des bâtiments différents et ils sont sous une direction générale différente. On regroupe tout ça, c'est ce qu'on appelle l'administration unique, en ayant une seule administration qui fonctionne aussi bien pour l'agglomération que pour la ville. Ça va évidemment simplifier et rendre plus efficace la gestion de tout ça. Parce que tout le monde sera, au lieu d'avoir 2 services de la culture ou 2 services du sport, un à la ville, un à l'agglo, on n'en aura qu'un qui gérera et la ville et l'agglo. Ça ne change pas évidemment les compétences. La ville garde son budget, la ville garde ses compétences.
Tout comme l'agglo.
Tout comme l'agglo. Mais on a, en prestation de service quelque part, pour réaliser l'ensemble de nos travaux ou pour gérer les sports, on aura une seule administration qui fera ça. Cette administration unique, on va, pour une grande partie des collaborateurs, pas pour tout le monde, les installer à Chanzy dans le bâtiment central. Donc les travaux commenceront en avril. On estime un déménagement entre septembre 2025 et janvier 2026.
D'accord.
À peu près là. Septembre 2025, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Ça décalera peut-être d'un ou deux mois, mais c'est à peu près là.
En fonction de l'avancement des travaux.
Ça, c'est le bâtiment central. Ensuite, sur le troisième bâtiment de la place d'armes. Donc, j'ai dit le bâtiment de droite, INRAP, finance, intérieur. Le bâtiment central, ville, agglo. Le bâtiment de gauche, cette fois-ci, c'est le bâtiment pour le cirque. Vous l'avez évoqué. Là, on est dans une phase où on devrait lancer au printemps le concours d'architecture. L'idée plutôt de raser le bâtiment pour construire un bâtiment contemporain.
Adapté.
Qui restera... L'idée, c'est peut-être jouer sur les architectures. D'avoir... On respecte la place d'armes. Donc, on sera bien toujours dans un univers de place d'armes. On ne mettra pas un bâtiment au milieu de la place. Donc, on va avoir un bâtiment qui aura peu ou prou une forme identique à celle d'aujourd'hui, pour respecter la structure de la place d'armes, pour respecter l'alignement d'arbres qui existe, mais sur un bâtiment qui sera plus contemporain, qui permet de jouer sur les architectures entre de l'architecture historique et de l'architecture contemporaine. Ça fera quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là comme discussion architecturale. Et ce bâtiment-là, on espère lancer un concours d'architectes au printemps pour ensuite désigner probablement courant d'année 24 le lauréat, donc l'architecte qui nous proposera un projet. Puis ensuite, il y aura toute la phase des études avant de faire les travaux en tant que tel. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu plus éloigné, évidemment, et qui va mettre... il y aura probablement 6 à 8 mois de concours. Donc on va dire concours courant 24, les études, etc., courant 25, et travaux...
D'étudier les dossiers, voilà, les propositions.
Étudier, et puis ensuite, une fois que vous avez un dessin architectural, il faut traduire ce dessin architectural en travaux. Ensuite, il faut lancer un concours pour désigner les entreprises qui font les travaux. Donc tout ça, on peut espérer que ça se fasse courant 25 et qu'on débute les travaux en 26. Voilà, c'est à peu près ça, les échéances. Enfin, on a dit 3 éléments à régler. Le bâtiment central, le bâtiment de gauche, le tiers-lieu. Le tiers-lieu, physiquement, pour que les gens qui connaissent Chanzy se remémorent un peu les choses, il y a donc la place d'armes. Il y a, derrière le bâtiment de droite, un bâtiment, une espèce de halle utilisée par l'INRAP aujourd'hui. Il y a une deuxième halle qui est dans la poursuite de la première. Le tiers-lieu, c'est là qu'on voudrait le positionner. Un tiers-lieu, c'est quoi ? Parce que ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Un tiers-lieu, c'est un bâtiment qui a finalement une multitude d'usages et qui n'est pas affecté à un seul usage. Ça veut dire quoi ? Quand vous prenez le bâtiment central, qu'on vient d'évoquer, il est exclusivement au service de l'administration, de la ville et de l'agglomération. L'étage de l'INRAP, c'est l'étage de l'INRAP. Et puis le bâtiment du cirque, c'est pour le cirque. Point. Un tiers-lieu, c'est un lieu ouvert à tous, sur lequel vous allez avoir une multitude d'activités. Vous pouvez avoir une association qui fait de la fabrication en 3D, un artisan qui s'installe. Vous pouvez avoir une association qui s'installe pour avoir des activités culturelles ou sportives. Vous pouvez avoir des ateliers, vous pouvez avoir des Fab Labs. Vous pouvez avoir un espace de restauration, vous pouvez avoir des équipements sportifs.
Tout est possible.
Bref, c'est quelque part une forme de multi-usage et d'une gestion collective. Mais l'idée surtout, c'est que ce soit ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire que n'importe qui, entre guillemets, peut y aller. Personne ne va, sauf un usager, au bâtiment de la mairie. Les circassiens, personne n'ira dans le bâtiment, à part les gens du cirque.
Bien sûr.
Là, l'idée, c'est d'avoir un lieu beaucoup plus ouvert, qui fasse quelque part vivre le quartier. L'idée, c'est comment on évite d'avoir un quartier qui soit un peu trop mort. Quand vous ne mettez que du logement ou quand vous ne mettez que du bureau, les quartiers ont du mal à vivre. Donc, il faut qu'on crée quelque part une forme de diversité des usages et des fonctions. Un peu de commerce, un peu d'activité, un peu de culture, un peu d'habitat, un peu de bureau pour que l'ensemble arrive à vivre, mais à vivre la journée, le soir, le week-end. Donc voilà. Donc c'est un peu l'objectif du tiers-lieu, d'animer tout ce nouveau quartier.
Est-ce que le Champagne Basket peut rentrer dans ce projet de tiers-lieu ?
Alors, nous avons lancé ce programme de tiers-lieu. Le Champagne Basket s'est effectivement proposé comme étant l'animateur potentiel de ce tiers-lieu pour, de son côté, faire une salle d'entraînement.
D'accord.
Donc c'est une partie sportive que j'évoquais tout à l'heure, mais pour bien avoir tous les autres équipements qui sont ceux d'un tiers-lieu. En gros, ce qu'on a dit au Champagne Basket, attention, ça ne peut pas être un lieu que Champagne Basket, que pour l'entraînement de vos sportifs. On veut un lieu ouvert
à d'autres activités.
À d'autres activités, bien sûr, mais surtout à ce que les spectateurs, enfin ceux qui vivent dans le quartier, ceux qui vont travailler dans le quartier demain, aient accès à ce site-là. Donc ça ne peut pas être un accès fermé. Bon, donc ils ont accepté le principe, on est en cours de discussion avec eux. Nous allons lancer ce qu'on appelle un AMI, appel à manifestation d'intérêt. C'est un appel d'offres, en gros, pour le dire différemment, pour dire, voilà, on a envie de faire un tiers-lieu sur ce site-là.
Qui a envie de se positionner ?
Voilà le bâtiment. Qui a envie de se positionner pour le gérer ? Peut-être que le Champagne Basket répondra, peut-être que d'autres répondront. On aura peut-être 1, 2, 3, 4, 5 dossiers. Puis on examinera celui qui nous paraît le plus pertinent pour gérer cet espace-là.
Monsieur le maire, Benoît Paru, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite encore une fois de plus une très belle année. Et puis à très bientôt sur les ondes de RCF pour revenir sur ces grands projets du côté de Châlons-Champagne. À très bientôt.
Merci à vous. Belle année également à toute l'équipe de RCF. Et puis, belle année, j'allais dire surtout, à vos auditeurs, en espérant que cette année leur apporte la joie, le bonheur, la santé, bref, tout ce qu'il faut pour être heureux.
Benoît Apparu qui reviendra sur d'autres projets pour cette année, ça sera demain à 11h sur les ondes de RCF Cœur de Champagne et évidemment toutes ces interviews comme ce magazine. D'ailleurs, c'est à retrouver sur le site internet www.rcf.fr dans la rubrique programme.
Le 18-19 sur RCF.
Pour terminer cette émission, le vendredi, on retrouve Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, en alternance avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et des Ardennes. C'est Mgr Étienne Véteux qui était ce matin avec Jean-Pierre.
Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous, c'est la première fois en janvier, vous êtes dans le studio de RCF Reims-Ardennes et tout naturellement, on vous souhaite tous nos vœux pour 2024. Et puis j'imagine que vous avez des vœux à présenter à la fois aux auditeurs et puis à tous ceux oui, et des diocésains.
Oui, tout à fait, on est encore dans les temps. Donc meilleurs vœux d'abord à vous Jean-Pierre et puis à RCF. Meilleurs vœux. Bon, peut-être que je peux souhaiter meilleurs vœux d'abord à la France. On voit qu'il y a un nouveau gouvernement. Meilleurs vœux dans le sens.
Et on a une ministre venue de Reims.
Et on a eu la chance d'avoir une ministre venue de Reims.
C'est tombé hier.
Donc je lui souhaite en particulier beaucoup de courage et de force et de lumière pour son poste. Puis peut-être pour la France, je dirais des vœux de courage, de ne pas avoir peur. On est dans un moment de l'histoire où face aux guerres, face à différents troubles, on peut avoir peur. Pour l'Église, c'est un peu la même chose, mais je le mettrai en d'autres mots, des vœux d'espérance. Face à ces questions, le don de la foi est un don d'espérance. L'espérance, c'est pas forcément de pouvoir faire confiance aux situations qui nous entourent, mais à Dieu qui travaille dans ces situations. Donc, on est entre les mains de Dieu. Donc, dont meilleur vœu de force, meilleur vœu d'espérance.
Alors, on aura l'occasion de reparler de la semaine de prière de l'unité dans quelques minutes, avec des vœux interreligieux. Ça sera pour le 23 janvier. Il y aura peut-être une rencontre.
Alors, je peux le dire tout de suite, c'est que l'Église et les autres religions, c'est-à-dire à la fois les autres confessions chrétiennes et puis les responsables de l'islam, les responsables du monde juif, ont pensé juste de s'unir pour présenter des vœux à Reims. Il y aura donc des vœux le 23
janvier,
qui auront lieu à la mairie, à l'hôtel de ville.
Alors, on va, puisque vous avez été souvent à Rome, justement prendre la direction de Rome, puisque le 18 décembre dernier, le Dicaster pour la doctrine de la foi faisait paraître une déclaration qui a un titre évidemment latin, Fiducia supplicans, et qui a eu un retentissement certain dans l'opinion publique à cause du sujet sensible qu'elle aborde, l'accompagnement dans l'Église des personnes homosexuelles vivant en couple d'une part et des personnes divorcé, engagé dans une vie de couple d'autre part.
Oui, fiducia supplicans, ça veut dire littéralement une confiance qui supplie. Et l'Église sait bien, voit bien que la question des couples homosexuels agite énormément à la fois l'Église et la société et voulait prendre une position qui puisse éclairer les pasteurs. Je retiens peut-être à partir d'une très très bonne déclaration de la conférence épiscopale française qui est sortie il y a deux ou trois jours,
le conseil permanent. Oui.
Il y a eu une très bonne déclaration qui, je vous encourage d'ailleurs à la lire parce qu'elle est très claire. En gros, trois points. D'abord, le conseil reçoit cette déclaration comme un encouragement aux pasteurs à bénir généreusement les personnes qui s'adressent à eux, en demandant humblement l'aide de Dieu, donc une générosité dans la bénédiction. Notons qu'il s'agit non seulement des couples, des personnes homosexuelles qui pourraient vivre ensemble, en couple, mais aussi de personnes divorcées qui pourraient vivre en couple. Donc il s'agit de tous les couples en situation irrégulière. Puis, Fiducia Supplicans rappelle Donc, la doctrine de l'Église, qui est de dire que le mariage est une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme. Donc, il ne s'agit pas ici de considérer un mariage, mais une bénédiction. Et puis, troisièmement, il s'agit d'une bénédiction simple, pas une bénédiction rituelle qui pourrait se confondre avec un mariage, mais une prière qui peut être spontanée, une prière qui peut se faire et qui se fait certainement pas avec tous les données extérieures d'un mariage, mais une prière où des pauvres, comme nous sommes tous, des pauvres se tournent vers Dieu et supplient son aide.
C'est un appel à l'accueil inconditionnel et miséricordieux et en même temps, pas de forme ritualisée, c'est spontané, on bénit des personnes.
C'est ça, on bénit des personnes qui vivent en couple et qui ont besoin à la fois de la force de Dieu et qui ont aussi besoin d'être éclairés sur quelle est la volonté de Dieu dans leur vie.
Alors, puisque nous sommes à Rome, on va y rester, Monseigneur, puisque deux communicantes du diocèse, je crois que c'est Bénédicte Cousin et Violaine de Caffarelli, sont actuellement à Rome. Pourquoi, Monseigneur ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il y a actuellement à Rome une rencontre des communicants de l'Église de France. Donc, deux sont venus de notre diocèse, il y en a des autres diocèses, des grands mouvements de l'Église de France aussi. Il s'agit principalement pour eux à Rome de travailler sur la préparation du jubilé de l'an 2025. Vous savez que Rome accueillera 40 millions de pèlerins à ce moment-là. Et donc, il y a un sérieux travail de préparation. On peut penser particulièrement à Bénédicte Cousin et à Violaine de Caffarelli aujourd'hui, puisque d'ici quelques heures, 3 heures je crois, elles seront avec le Saint-Père en audience.
Il faut rappeler que 2025, c'est un anniversaire du Concile de Nicée en 325. Donc, c'est le 1700e anniversaire. Monseigneur, cette semaine, ou plutôt la semaine prochaine, va débuter la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ça sera à partir du 17 janvier. Alors là, il y a quand même pas mal de choses dans le diocèse de Reims.
Oui, le diocèse de Reims est bien investi. Je vous rappelle peut-être les trois grands moments, et c'est une invitation aussi à tous ceux qui nous écoutent à y participer. La semaine s'ouvrira le 17 janvier par une célébration à 20h au temple protestant. Où ce sera votre humble serviteur qui est actuellement au micro qui fera la prédication. Et puis, il y aura le 21 à Charleville-Mézières, à l'église du Sacré-Cœur, aussi une célébration à 15h, 15h le dimanche 21. Et puis, la semaine conclura à Courmontreuil, chez les Clarisses, le 24, mercredi 24, aussi à 20h, et cette fois-ci, puisque ce sera dans une église catholique, la prédication sera assurée par le pasteur Geoffroy.
Alors il faut dire, Monseigneur, ce sera l'occasion pour nous, sur RCF, de vivre avec vous, et grâce à vous, une émission spéciale, qui d'ailleurs sera enregistrée aujourd'hui, on ne cache rien aux auditeurs, elle sera diffusée la semaine prochaine, en particulier au moment du lancement, une semaine qui sera consacrée justement à l'œcuménisme et à la semaine de prière pour l'unité.
Oui, je serais très heureux. C'est un thème que j'ai beaucoup travaillé et qui me tient à cœur. Je pense que c'est un des appels fondamentaux que Dieu fait à son Église. Soyez un pour que le monde croie.
On aura l'occasion donc de vous retrouver la semaine prochaine, donc en dehors de l'émission Parole d'évêque avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort vendredi prochain. Et puis bon, si on regarde l'agenda en une minute, Monseigneur, puisqu'on a une minute, les nouveaux évêques ont besoin de formation alors que vous êtes complètement affûté là ce matin avec nous.
Alors, en janvier, tous les ans, la Conférence épiscopale de France propose une semaine ou 4 jours de formation pour les nouveaux évêques. Ça aura lieu là, dans 10 jours. Alors bien sûr, certains comme moi ont déjà commencé, mais c'est toujours l'occasion une fois qu'on est au milieu des choses, les mains dans les pattes, dans la pâte, de relire et de rectifier ou en tout cas de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre.
Et puis déjà depuis plusieurs semaines, depuis 2 mois, 2-3 mois, vous êtes à travers le diocèse, j'allais dire,
tout terrain, des Ardennes à la Marne, vous découvrez le diocèse.
C'est ça, oui, j'étais encore à Sedan hier, par exemple. Non, c'est le terrain, en fait, qui m'enseigne le plus, et puis cette chance de travailler avec l'archevêque Monseigneur de Moulins-Beaufort, qui a beaucoup d'expérience.
Merci, Monseigneur Étienne Véteux, d'avoir été avec nous.
Merci.
À bientôt.
À noter que Monseigneur Étienne Véteux sera notre invité dans un format d'une matinale spéciale lundi matin sur RCF France Ardennes pour parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et puis sera également invité lundi matin dans ce format spécial Marie Paillard, qui lancera le cycle de conférences avec l'association Alliance Vita. Voilà pour les rendez-vous rédactionnels en début de semaine prochaine. Nous, on vous souhaite un très bon week-end en compagnie des programmes de RCF. Tout de suite, c'est l'information nationale qui prend le relais. Prenez soin de vous. Très bon week-end. À lundi, 18h10 pour le magazine régional.